Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Depuis quelques années, je me balade avec un micro pour donner la parole à tous les gens que je rencontre, ceux que je trouve inspirants. Et j'ai récemment rencontré Florian, qui fait partie de ces gens qui mènent une vie alignée. D'abord prof de maths, Florian a décidé de se rapprocher de la nature et est devenu bûcheron-sylviculteur. Florian fait partie de ceux qui créent leur réalité. Il se définit comme un aventurier explorateur du corps humain, qu'il considère comme un territoire fascinant à découvrir. Dans cette première partie de l'émission, Regarde ailleurs, Florian revient sur son parcours et nous présente sa vision holistique de l'être, qui se définit par un corps, une âme, mais aussi un esprit. Florian Gomet, G-O-M-E-T, Florian Gomet avec moi dans mon salon, dans les mains du thym qui vient du jardin. C'est ce que tu m'as demandé, c'était ta requête. J'ai dit Florian, est-ce que tu veux du thé? Tu m'as dit plutôt une plante qui pousse dans ton jardin. Donc je pense qu'on comprendra pourquoi un peu plus tard dans l'émission. Apparemment tu es assez sensible à ce que tu mets dans ton corps en termes d'alimentation. Tu expliquais lors d'une de tes conférences que le thé et la théine n'est pas forcément quelque chose que tu consommes. On verra aussi pourquoi dans cette émission. Mais avant d'aborder le côté santé, je t'ai découvert lors d'une conférence, d'une projection, quand tu as projeté ton film La Marche sans fin, où tu racontes un petit peu une aventure de jeuneur, où tu as marché pendant une douzaine de jours à travers les montagnes du Canada sur un trail, le Canon Trail, donc un trail sans manger sur plusieurs journées de marche. Suite à quoi je t'ai proposé de venir ici dans mon salon pour en savoir un peu plus sur ton histoire de vie, sur ton parcours. Donc Florian, à toi la parole, qui es-tu et comment as-tu commencé à voyager? Qu'est-ce qui t'a amené pour la première fois à te mettre en mouvement sur les routes du monde?
Alors je suis un bourguignon de 36 ans qui a commencé sa carrière professionnelle dans l'éducation nationale. Et j'étais passionné à ce moment-là d'astronomie depuis l'enfance, et mon rêve c'était vraiment d'explorer, de comprendre l'univers, d'en connaître un maximum sur la vie, le sens qu'on peut lui donner, le miracle qui se cache derrière. Et c'est vraiment ça qui m'a guidé, qui m'a poussé à faire des études, classe préparatoire, et puis dans le milieu scientifique. Et puis dans le milieu enseignant, je me suis pas retrouvé à ma place, et dans la société en général non plus. J'avais beaucoup de mal à trouver ma place. Je donnais pas vraiment de sens au schéma, au rêve qu'on nous proposait. Et donc quand j'ai donné ma démission à l'éducation nationale, ma vie qui alors jusqu'à présent était toute tracée jusqu'à la retraite, mais il fallait que je lui donne un nouveau sens. Et j'avais aucune idée a priori de ce que j'allais faire, et je me suis laissé vraiment guider par mon intuition, ce que la vie me présentait à ce moment-là. Je suis resté de manière un petit peu indécise sur ce que j'allais faire pendant peut-être 6 mois ou 1 an. Et naturellement, je me suis dirigé vers l'activité sportive en pleine nature. Je me suis engagé dans un club de triathlon. Et puis j'ai mis au point des voyages en début, des voyages à vélo en Italie, en Roumanie, des choses que je pratiquais pendant mes vacances. Et puis en fait, à chaque fois que je partais, je me rendais compte que je devenais quelqu'un d'autre, comme si tout le poids des conditionnements n'avait plus de prise sur moi. J'avais l'impression d'être une autre personne, beaucoup plus alignée, confiante, joyeuse, et ce qui fait qu'après c'est un peu devenu ma raison de vivre, de partir toujours plus longtemps dans des voyages et dans des endroits de plus en plus isolés. Si bien que j'ai quitté le vélo parce que voilà, la présence de la circulation c'est un petit peu limité quand on veut vraiment être au contact de la nature. Et donc je me suis engagé dans des voyages à pied, en montagne, ça a été la Suisse, la Norvège, et puis aussi dans des endroits polaires comme le nord du Canada. Et ça a été ma plus grande expédition, la traversée de toute l'Amérique du Nord à vélo, à pied, en kayak, à ski, 12 000 km en 15 mois d'aventure, où j'ai été le premier homme à traverser une chaîne de montagnes qui s'appelle les monts Mackenzie, qui sont situés sous le cercle polaire. Et donc, je les ai traversés seuls, sans moyens motorisés, en période hivernale, ce qui n'avait jamais été fait. Et ça, c'est une expédition que j'ai pu mener grâce à des changements dans mon hygiène de vie, notamment alimentaire, parce que arrivé à un moment, à force de toujours s'entraîner, j'avais atteint mes limites et je commençais de me blesser. Voilà.
Tu as dit beaucoup de choses, je vais t'arrêter, on va reprendre un petit peu certains points que tu as évoqués. Donc cette notion de remettre du sens au cœur de ta vie, hein, tu quittes l'éducation nationale, tu as quel âge à ce moment-là quand tu essaies d'être plus en phase avec ta conscience?
Alors c'est en 2010, donc j'ai 26 ans.
À 26 ans, ça y est, tu décides de ne plus finalement suivre un chemin qui a été plus ou moins dicté ou tracé, et tu choisis vraiment d'être plus résilient finalement, et d'être vraiment ce que tu es, ce que tu vibres intérieurement, à travers les actions que tu vas poser dans ton quotidien.
Exactement, et à ce moment-là, j'ai besoin, pour des questions tout à fait pragmatiques, de trouver un autre métier. Donc je sais déjà que je veux me diriger dans le domaine de l'aventure, des expéditions. Je me dis, j'ai besoin d'un métier où je suis en plein air, où je me prépare physiquement, habitué à être dehors par tous les temps. Et donc je me dirige spontanément vers le métier de bûcheron. C'est quelque chose que j'ai pas du tout mentalisé. Je me souviens quand je suis allé au Pôle emploi, on m'a demandé ce que j'allais faire maintenant. Et en fait, je pensais qu'on allait me demander un petit peu mes goûts, mes diplômes, l'offre d'emploi sur le moment. Et en fait, pas du tout, on m'a juste demandé qu'est-ce que je voulais faire. Et le mot bûcheron, comme ça, est sorti de ma bouche sans aucune préméditation. Et donc, je me suis mis à mon compte dans ce travail-là, qui m'a beaucoup plu et que j'ai exercé pendant 10 ans. Et la chance que j'ai eue finalement, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de travail dans le bûcheron avec une tronçonneuse, parce que voilà, c'est progressivement remplacé par les machines. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était un métier qui me forge un physique, me permettant d'être capable de mener des expéditions. Donc être assis dans une machine, c'est pas ça qui me plaisait. Et donc je me suis dirigé là, dans le milieu forestier où il y a du travail, et c'était principalement le reboisement, la sylviculture, qui était quelque chose qui, dans le fond, me convenait beaucoup plus que de participer à la pousse des forêts plutôt qu'à sa destruction. Donc j'ai beaucoup planté d'arbres et j'ai nettoyé énormément de jeunes plantations avec une débroussailleuse. Et ça, c'est un métier qui physiquement n'était pas facile, bien évidemment, mais c'est ce que je recherchais et qui m'a énormément apporté par ce contact avec la nature et la solitude. Ça a été 10 années d'introspection vraiment au milieu des bois et ça a été vraiment un enrichissement incroyable pour moi.
Mais ces 10 années de bûcheronnage, si j'ai bien compris, ont été ponctuées d'aventures ou d'expéditions à l'international.
Effectivement. Grosso modo, je profitais des vacances d'été. J'étais à mon compte, donc je les fixais quand est-ce que je voulais, parce qu'il y avait beaucoup d'avantages. Donc, je mettais de l'argent de côté toute l'année. Je travaillais un maximum. Et puis, l'été, je me libérais un mois, deux mois ou trois mois pour partir en expédition.
Qu'est-ce que c'est ? J'aime bien poser cette question. Pour toi, être un aventurier, comment est-ce que tu le définirais ? Qu'est-ce que c'est qu'un aventurier aujourd'hui, au 21e siècle ?
Pour moi, un aventurier, je dirais que c'est quelque chose de très personnel comme définition. Hein. Je dirais que c'est quelqu'un qui ne se sent pas vivant dans un milieu artificiel, moderne, avec beaucoup de confort, et qui ressent en parallèle le besoin d'aller découvrir des choses inconnues. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on a tendance, je trouve, à assimiler maintenant avec du sport en milieu naturel. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de très différent. Pour moi, un aventurier, c'est quelqu'un qui va engager sa vie dans un voyage, pas pour jouer les casse-cou, pas pour de l'adrénaline, simplement son degré d'insatisfaction dans la vie fait qu'il va aller chercher quelque chose qu'il ne sait pas encore ce que c'est exactement, au risque de sa vie. Pour moi, c'est ça l'aventure.
Alors, je te renvoie la question, qu'est-ce que tu cherches au risque de ta vie?
Je cherche à vraiment vivre. Ça, je l'ai trouvé entre-temps, donc j'ai plus besoin maintenant de faire d'expédition pour me sentir vivant. Et donc voilà, quand je me sentais prisonnier dans la société avant, bien avant la crise actuelle, hein, j'ai senti qu'elle ne me nourrissait pas, que j'étais en train de mourir à petit feu dedans, que voilà, mon besoin de découverte, de curiosité, de vivre des émotions, de vibrer, tout ça, c'était pas satisfait. Donc, je me sentais mourir à petit feu. Et comme j'avais lu quelques livres d'aventuriers, en lisant ces livres-là, j'avais senti quelque chose en moi qui, une sorte d'appel, c'est-à-dire que mon corps ou mon âme a vraiment senti que, qu'à travers ce genre d'expérience, j'allais vivre des émotions qui allaient m'apporter ce que je recherchais. Et donc, c'est pour moi l'idée de partir en voyage, c'est un petit peu comme une lumière quand on est dans un tunnel. Voilà, il y a des risques parce que c'est noir entre l'endroit où on est et l'endroit où on veut aller. Mais on sait que là-bas, plus on va avancer, plus ça sera lumineux. Et que si on reste dans le noir, ben, on s'en sortira pas. Donc voilà, on prend le risque de mettre un pied devant l'autre, même si on voit pas très bien où on va, au risque de trébucher, au risque de tomber. Mais au moins, il y a la possibilité de vraiment vivre, quoi.
Se sentir vivre, se sentir vivant, ces notions aujourd'hui sont très prégnantes dans une société où on est souvent envahi par nos peurs qui nous empêchent de nous mettre en mouvement. Cette notion de s'extirper ou s'extraire de sa zone de confort permet réellement de se sentir vivant. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que se sentir vivant pour toi ?
Pour moi, se sentir vivant, c'est... Je pense que ça se joue sur plusieurs niveaux. En tant qu'individu, on est pour réaliser certaines choses, pour expérimenter un certain panel d'émotions. Et quand on les réalise, on se sent aligné avec soi, on vibre ce pour quoi on s'est incarné. Et à ce moment-là, on se sent à sa place, vivant, intégré, etc. Et inversement, quand on a trop de peur, et les peurs, elles peuvent être au sujet de tous les... Elles peuvent imprégner tous les aspects de notre vie. Hein. Ça peut être la peur de mourir, mais ça peut être aussi la peur d'échouer, la peur du jugement des autres. Donc à ce moment-là, quand on est encerclé par toutes ces peurs-là, eh bien, on n'ose plus être soi-même et on se conforme à ce que la société ou une image de la société qu'on se fait attendrait de nous. Et tant qu'on n'accepte pas d'être soi-même au risque de déplaire, au risque d'échouer, au risque de se tromper, à ce moment-là, on ne vit pas et on ne fait qu'écouter ses peurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Savoir se tromper, hein, ça fait partie finalement du cheminement de l'enfant qui va tomber 2000, 3000 fois avant de savoir marcher, donc ne pas avoir peur de l'échec et continuer à y aller, vraiment se fixer une direction et s'y tenir et mettre un pas devant l'autre et avancer.
Exactement, voilà. On peut vraiment pas considérer qu'il y a des choses qui sont bien ou mal. Si vous faites une expérience qui est agréable, tant mieux. En général, c'est pas là où on va apprendre le plus, et quand on se trompe, quand on trébuche, ou quand on tombe, c'est là où il y a le plus de leçons à apprendre. Et c'est ça que je trouve vraiment magnifique dans la vie, c'est-à-dire que n'importe quelle expérience qu'on ait pu faire au cours de notre vie, quand on a pris suffisamment de recul avec elle, on se rend compte, une fois qu'on a transformé cela, qu'on l'a transmuté, qu'en fait cette expérience nous a enrichi d'une manière incroyable et qu'elle forge notre véritable identité, notre richesse, et qu'il y avait vraiment un trésor à l'intérieur. Et quand on n'a pas réussi à transmuter ça, c'est en fait juste une question de temps. Il n'y a vraiment rien de positif ou de négatif. Ce sont simplement des interprétations que l'on fait des événements.
Donc Florian Gomet, d'abord dans l'éducation nationale, avant de devenir bûcheron et finalement profiter de tes vacances pour aller vivre des explorations, vivre des aventures à l'international. Donc là, c'est plutôt l'aspect voyageur, mais j'ai rencontré là récemment un hygiéniste. Donc comment est-ce qu'on passe de voyageur à hygiéniste ? À quel moment tu as mis la santé, l'alimentation plus au centre ou plus au cœur de ce que tu fais ou de ce que tu es aujourd'hui ?
Alors je suis quelqu'un avec un tempérament qu'on qualifie en général d'excessif, et donc dans mes expéditions, j'étais aussi quelqu'un qui me mettait la barre très haute, et donc avec un entraînement très lourd au quotidien pour pouvoir encaisser ces voyages-là. Et au bout d'un moment, quand on s'entraîne trop, les blessures arrivent, les problèmes de santé avec, et donc je me suis retrouvé face à un mur. Avec des problèmes de santé, des allergies, des problèmes de vue, et puis surtout une grosse sciatique qui m'handicapait depuis 2 ans et qui m'empêchait de courir, qui m'empêchait presque de travailler et qui m'handicapait aussi dans mes voyages. jusqu'à un point où je me disais, si ça continue, je vais plus pouvoir m'entraîner et voyager. Mais c'était vraiment pas la peur qui imprégnait mon état d'esprit. J'avais absolument la certitude que mon corps allait trouver la solution, mais je savais ni quand et ni par quel moyen. Et c'est là où en fait j'ai fait la découverte de l'hygiénisme. C'était au cours d'un voyage où je descendais la Loire en kayak, et là j'ai pris une grosse insolation qui m'a laissé avec pendant 48 heures avec une grosse fièvre, cloué dans ma tente et sans boire ni manger. Et quand je suis sorti de cet état de fièvre, j'ai repris mon voyage, je me suis senti bien, même très bien. J'ai continué à pagayer 10 heures par jour, sauf que quand je m'arrêtais aux heures des repas et que j'essayais de manger, en fait j'avais envie de vomir au bout de quelques bouchées seulement. Et ça a duré à peu près une semaine comme ça, où j'ai presque rien mangé parce que voilà, il n'y a rien qui voulait rentrer dans mon corps. Et en parallèle de ça, je continuais mon voyage, 10 heures par jour de kayak en pleine forme. Et je comprenais vraiment pas ce qui m'arrivait parce que j'étais quelqu'un qui mangeait comme trois auparavant. J'avais un appétit exacerbé. Et puis j'avais la croyance que c'était bien de manger beaucoup et qu'il faut manger beaucoup pour avoir de l'énergie, quoi. Et là, je me retrouve une semaine, je mange presque rien et je suis en pleine forme comme encore plus que d'habitude. Et donc, ça contredit vraiment mes croyances au sujet de l'alimentation. Et je suis quelqu'un...
Mais c'est presque un accident. Alors, c'était pas un choix que d'avoir envie de limiter ton alimentation pour en ressentir les bienfaits sur le corps. C'est vraiment cette insolation qui t'a quelque part dégoûté de l'alimentation matérielle.
C'est ça, c'était vraiment une expérience que, j'ai envie de dire, le soleil m'a imposée. Complètement fortuite, pas du tout calculée, ni même recherchée. J'avais jamais vraiment entendu parler de jeûne avant, et puis vu les croyances que j'avais auparavant, les dogmes que j'avais, j'aurais considéré ça comme quelque chose d'un peu absurde qui m'intéressait absolument pas. Donc j'avais pas vraiment d'opinion sur le jeûne, et si on m'avait questionné à ce moment-là, je pense que j'en aurais dit que du mal, quoi. Je suis quelqu'un de curieux et j'aime comprendre ce qui se passe. Donc je me suis dit, je vais lire, faut que je me renseigne sur le sujet. Donc j'ai ma chance, c'est que je suis tombé sur mon premier livre sur le jeûne, parlait aussi d'alimentation vivante, et ce qui est complètement complémentaire. Et donc j'ai en fait l'auteur dans ce livre-là, c'est le livre « Et si on s'arrêtait de manger » de Bernard Clavière. L'auteur affirme qu'il mange qu'une fois par jour des fruits et des légumes crus, et que c'est ainsi qu'il a résolu tous ses problèmes de santé, alors que c'était un enfant qui était très malade depuis le début de sa vie. Et j'ai pas senti quelqu'un qui essaye de vendre quelque chose, et il n'y avait pas grand-chose à vendre derrière, je voyais pas l'intérêt qu'il ait de mentir. Et donc ça m'a tout de suite parlé, surtout après avoir vécu cette expérience, pour moi ça coulait de source en fait ce que cet auteur disait, et je me suis dit, si lui peut le faire, bien moi je peux le faire aussi. Et donc, du jour au lendemain, quand je suis revenu de mon voyage, j'ai fait le tri dans mes placards, j'ai viré plein de choses, et je me suis dit, je vais essayer de manger une fois par jour que des aliments vivants, donc végétales, des fruits, des légumes crus, etc. Et en fait, au fil des mois, je me suis rendu compte que mes problèmes d'allergie au pollen et poils de chat étaient beaucoup moins fortes, et puis que j'ai observé après au fur et à mesure des années qu'elles disparaissaient. Mes problèmes de peau avec l'acné, les kystes, transpiration, tout ça, c'est pareil, ça a suivi le même chemin, diminution pour ensuite disparaître quasiment. Et puis ma sciatique, elle, pareil, elle s'est complètement envolée. Et ma chance aussi le hasard, j'ai envie de dire, dans cette transition, c'est que en même temps j'ai découvert des livres sur la course pieds nus, puis je me suis j'ai rencontré des personnes qui m'ont proposé d'essayer le yoga, la méditation, les respirations, les bains froids. Enfin, bref, il y a eu un concours de circonstances qui fait qu'en 6 mois j'ai complètement révolutionné mon hygiène de vie, et c'est certainement ça qui a accéléré aussi tous les effets bénéfiques que j'ai pu observer sur ma santé.
Is violence, and so is your silence when it's rooted in compliance. To stand firm in loving defiance, make archer alliance, give voice to the fire. Move people to the beat of the wind, gather yourself and begin to dance the song until it ends. We
We are winners, champions of the light, forming in numbers and might. Keep the truth close inside. Medicine woman, medicine man, walking with grace. I know your face and I trust your hands. Medicine woman, medicine man, walking with grace. I know your face and I trust your hands. Find your teachers in the voice of the forest. Unplug, you can't ignore this wisdom of the voiceless. Remedies are bountiful and surround us from the garden to the farthest. Prayer made of stardust. Find your healing in the music that calls you, the voice that enthralls you. What do you belong to? Eyes out, there's the setting of the sun. Give thanks to each and every one. The lesson is the medicine woman, medicine man, walking with grace. I know your face and I trust your hands. Medicine woman, medicine man, walking with grace. I know your face and I trust your hands.
Ce qui est intéressant, c'est que ces pratiques de jeûnes sont finalement ancestrales, hein, dans toutes nos croyances, toutes nos religions. Déjà, on parlait du carême, le ramadan, le shabbat, enfin, cette manière de laisser son corps faire une pause. Dans les grandes spiritualités aussi, hein, des jeûnes intermittents, de ne pas manger, faire des retraites pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et c'est peut-être cette société dans laquelle on vit aujourd'hui ou qui nous a expliqué qu'il fallait consommer. Donc quelque part, c'était un peu antinomique par rapport à toutes ces pratiques qui reviennent aujourd'hui. Hein. Le jeûne est quelque chose de plus en plus répandu. J'utilisais un mot, le mot hygiénisme. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu pourrais le définir ?
Alors l'hygiénisme, c'est un mot qui est souvent mal compris parce que on a tendance à le référer à l'hygiène au niveau des microbes, des bactéries, au fait de se laver les mains, etc. Et si vous regardez sur Wikipédia, par exemple, il y a deux définitions pour hygiénisme. Les deux datent d'environ 2-3 siècles. Il y en a une, c'est vraiment, elle est focalisée sur vraiment la lutte contre tout ce qui va être microbe, donc comme je le disais. Et puis essayer voilà de avec une vision très pasteurienne de la santé. Et puis l'autre vision de l'hygiénisme, l'autre définition, c'est celle qui a émergé avec notamment Herbert Shelton, l'éducateur en santé. Et donc là, c'est elle considère le point de vue de Béchamp, Antoine Béchamp, hein, qui considérait que c'était le terrain qui était responsable de l'apparition des maladies. Et donc cette définition de l'hygiénisme, elle considère que tout ce qui participe au bien-être et favorise la santé est l'hygiénisme, voilà. Et si on regarde au niveau étymologique, ça vient de la déesse Hygé, qui est la fille d'Asclépios, le dieu de la médecine. Et donc pour moi, l'hygiénisme, c'est un mot qui souvent ne parle pas aux gens, mais que je continue d'adopter. Tout simplement parce qu'au niveau étymologique, c'est vraiment le bon sens du terme. Et puis, quand j'organise des conférences ou des stages, je prends le temps de poser ma définition de l'hygiénisme, parce que même à l'intérieur de l'hygiénisme d'un point de vue du terrain, du point de vue de Béchamp, il y a quand même encore une division. Il y a vraiment les hygiénistes, on va dire puritains, qui considèrent que faut pas boire de jus de légumes, par exemple, pas utiliser de purge, enfin bref, rien qui ne soit pas, qu'on puisse pas trouver purement et simplement dans la nature. Et les autres, là où moi je me retrouve, les autres hygiénistes, d'un point de vue plus élargi, où on considère que toutes les pratiques qui vont faire du bien au corps, à tous les corps, hein, physique, mental, émotionnel et spirituel, du moment que ça fait du bien au corps, eh bien, que ça soit complètement naturel ou pas complètement, ça participe de l'hygiénisme.
Ça, en tant qu'usager, enfin, en tant que personne qui se pose des questions sur la santé, sur l'alimentation, c'est compliqué d'y voir clair, parce qu'effectivement, même dans un même courant de pensée, il y a différentes manières de le vivre. Si quelqu'un va s'intéresser à la naturopathie, on va lui dire de ne pas prendre de produits laitiers, quelqu'un qui va s'intéresser à l'ayurveda, en Inde ou là-bas, le lait fait partie intégrante de l'alimentation quotidienne, donc c'est vraiment compliqué d'y voir clair aujourd'hui en termes de santé. Quel conseil tu donnerais pour celui qui a envie de savoir ce qui est bon pour lui ?
Alors effectivement, on va trouver tout et son contraire dans la littérature sur Internet par rapport aux conseils de santé dans l'alimentation. Et j'ai envie de dire, moi ce qui m'a vraiment permis de m'aiguiller dans un domaine et de vraiment être convaincu, bah, c'est les résultats que j'ai pu observer sur moi et surtout les résultats que j'ai pu observer sur les autres personnes qui suivaient le même protocole, j'ai envie de dire. Et donc, il y a beaucoup de personnes voilà, qui sont dans ce questionnement, ne savent plus à quel saint se vouer parce qu'elles entendent tout et son contraire. Et moi, j'ai envie de dire, comme dans les évangiles, c'est aux fruits qu'on reconnaît l'arbre. Et souvent, c'est presque drôle quand certaines personnes vont écouter quelqu'un qui visiblement est en mauvaise santé, parler de santé et suivre ses conseils. On ne peut pas parler de ce qu'on ne connaît pas. Et quelqu'un qui n'est pas en bonne santé n'est pas apte à parler de santé. Voilà, ça c'est mon point de vue. Cette personne peut être très compétente pour parler de maladies, pour parler de choses mentales comme le fonctionnement du corps, mais en tout cas pas pour parler d'une chose qu'elle ne connaît pas. Et donc moi ce que je conseille aux personnes, c'est si vous voulez suivre les conseils de quelqu'un en termes de santé, eh bien c'est d'abord d'aller vers des personnes qui vous inspirent et qui n'ont plus aucun problème de santé. Voilà, ça c'est le préalable. Et ce qui est bien quand on suit cette préconisation, ben, c'est que ça va vite faire le tri. Parce que les personnes qui n'ont plus de problème de santé, aucun problème de santé, elles sont pas nombreuses. Donc le choix se fait comme ça.
On a à plusieurs reprises utilisé le mot « vivant », se sentir vivant, ça fait écho aussi avec ce film qui s'appelle « Vivante » et où on parle d'hormèse. Est-ce que tu peux me définir aussi ce qu'est l'hormèse ?
Alors l'hormèse, bah, c'est une branche de l'hygiénisme qui consiste à créer un stress positif dans le corps humain pour en tirer des bénéfices. Il se trouve que l'humanité, depuis des millions d'années, hein, même si avant, au niveau anatomique, on ne ressemblait pas à qui nous sommes aujourd'hui, l'humain moderne est issu de millions d'années d'évolution. Et donc, pendant ces millions d'années d'évolution, on a en permanence été soumis à l'exposition au chaud, au froid, à différents stress comme l'activité physique, donc la fatigue, le manque de nourriture, éventuellement le manque d'oxygène quand on fait un effort physique, etc. Et donc ces stress-là, ils étaient en permanence présents dans notre vie au quotidien, ce qui fait que la nature n'a pas prévu qu'on s'en soit complètement extrait. Et ce qui est le cas aujourd'hui hein, dans nos vies modernes, si on veut ne plus du tout être soumis à aucun stress, on peut, hein, nos températures, nos maisons, les voitures avec des vêtements, on peut toujours être protégé du froid, on peut ne plus faire d'efforts physiques, hein, pour monter les escaliers, il y a des ascenseurs, il y a des voitures, etc. Donc on peut complètement, si on souhaite, se soustraire à tous ces stimulus qui vont stresser le corps. Seulement la nature, elle n'a pas prévu ça, ce qui fait que si on n'est plus du tout stimulé, eh bien... notre corps, il y a plein de mécanismes qui agissent en réponse à ces stress qui vont en fait s'estomper puis disparaître. C'est ce qu'on appelle la loi d'économie. Si quelque chose n'est plus utilisé, bah la nature elle le supprime parce que il y a un coût énergétique et donc la nature elle va à l'essentiel et ces genres d'adaptations vont disparaître. Seulement, eh bien il y aura des conséquences et en fait ça va entraîner dans notre corps une perte de vitalité. On va tout simplement devenir plus faible et aller progressivement vers le dépérissement. Voilà. Et en fait, ça, c'est Daniel Lieberman, un anthropologiste d'Harvard, d'anthropologie évolutive à Harvard, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'histoire du corps humain », qui est vraiment un très bel ouvrage où il explique cette théorie par rapport aux maladies de ce qu'il appelle de disévolution. C'est-à-dire que selon lui... en fait, la plupart des maladies apparaissent parce que voilà, on ne stimule plus notre corps et donc il dépérit et des maladies de civilisation s'installent. Et pour lui, dans son livre, 80 ou au moins 80% des maladies peuvent être mis dans ce sac des maladies dites de disévolution. Et donc, quand on va stimuler son corps au chaud, au froid, à la faim, à la fatigue. Moi, c'est ce que j'appelle les 3 F, hein, froid, faim, fatigue. Eh bien, à ce moment-là, le corps, il va retrouver de la vigueur, ça va stimuler le système immunitaire, on va se sentir mieux dans son corps, psychologiquement, parce que le corps, il a besoin de ces stimulus, voilà. Et donc, la nature, elle n'a pas prévu qu'on n'en soit pas, privé de ces stimulus. Donc, si on les retire, ben, en fait, c'est un petit peu comme si on devenait une plante hors sol, quoi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher,
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Merci à tous pour votre écoute. L'émission que vous venez d'entendre s'appelle « Regarde ailleurs ». Ce podcast donne la parole à ceux que je rencontre sur les routes du monde dans le cadre de mon activité de photographe voyageur. Je pars de l'idée qu'une personne, le parcours de vie d'une personne peut en inspirer beaucoup d'autres et j'aime pouvoir récupérer tous ces témoignages souvent très inspirants. Belle journée à tous !